Le grand 8 du week-end. Entrepremière.
Voilà, vous êtes bien à l'écoute d'Entrepremière, un numéro spécial pour le premier numéro de l'année. Alors, nous avons autour de la table pour mener l'interview avec moi Vincent Slit de La Libre, également Roland Gillet, économiste, et en direct avec nous depuis un duplex à Rennes, Paul Jorion. Alors, nous avons parlé avant l'interruption de l'Europe. On va un petit peu centrer quand même, on s'adresse aux Belges ici, on va un petit peu centrer sur la Belgique. On a souvent dit que notre petit pays avait un petit peu résisté. Alors, sans être trop long, Roland Gillet, est-ce que nous pouvons continuer, petite Belgique, à une sorte d'un îlot, je ne dirais pas de prospérité parce que la crise chine aussi, mais un îlot qui résiste à la stagnation ambiante, c'est possible ?
D'abord, j'espère qu'on va pouvoir résister, mais résister seul, ça c'est impossible, clairement. Si nos partenaires ralentissent, on ralentira avec, et d'ailleurs on le voit. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement qui a la possibilité pendant 5 ans de mettre en place une politique, je vais dire pas de long terme, mais de moyen terme. Et donc, il s'agit de voir maintenant si on va réussir à mobiliser la force économique belge pour avoir des effets comparativement à la situation économique générale qui sont à l'avantage de la Belgique. Et là, honnêtement, à ce stade-ci, je pense que c'est encore très difficile de le dire, même si certaines mesures ont été prises dans la bonne direction.
Mais justement, cette année 2015, un des grands débats, ce sera autour du chiffre fiscal, c'est-à-dire du transfert du poids de la fiscalité du travail vers le capital ou vers la consommation. Monsieur Jorion, est-ce que vous pensez qu'on doit effectivement aller vers une formule comme un impôt sur le capital, voire un cadastre des fortunes ? Est-ce qu'il faut taxer plus le capital en Belgique ?
Oui, parce qu'il y a un déséquilibre. Il faudrait s'intéresser à la manière dont ça s'est fait, mais un déséquilibre extraordinaire, et c'est pas simplement par rapport, je dirais, aux autres pays de la zone euro. La Belgique, il faut bien dire, a réussi à échapper à la rigueur par le fait d'une absence de gouvernement pendant très longtemps, qui était c'est pas une blague de dire que ça a été un avantage, puisqu'il n'y a pas eu de discussion de ce côté-là. Et puis, on maintient surtout, même s'il y a des sauts dans l'indexation, on maintient ce rempart, je dirais, contre une baisse des salaires qui est l'indexation, quelque chose qu'il faut absolument pas lâcher. Mais c'est vrai, oui, il y a un déséquilibre tout à fait, et surtout dans cet environnement où l'emploi disparaît d'une certaine manière parce qu'il est remplacé par la machine, une taxation bien excessive du travail qui est ridicule. On ne sait pas pourquoi le capital, qui en fait, bon, il faut bien le dire, sans être marxiste, c'est de l'argent quand même qui a été gagné quelque part par quelqu'un, pourquoi cet argent-là est beaucoup moins taxé que ce n'est le cas du travail qu'il faudrait encourager. À la limite, je défendrai quand même l'idée qu'il faut taxer le moins possible le travail. Il ne faut pas essayer de l'éliminer comme quelque chose de nocif. C'est un artefact de notre comptabilité de mettre le travail en coût, comme un coût qu'il faut baisser au maximum, alors que les dividendes apparaissent comme une part de bénéfice et non comme quelque chose qui peut augmenter, alors que ce sont différentes manières de distribuer la richesse qui a été créée. Il n'y a pas de raison, je dirais, de persécuter le travail de manière systématique.
Roland Gillet, taxer le capital, c'est une question d'équité ou une question d'efficacité, ou les deux, ou pas du tout pour vous ?
D'abord, il faut voir de quel niveau on part. Et réellement, si on prend le cas de la Belgique, et notamment, puisque c'est plus facile de parler de petites sociétés que de grosses, qui elles peuvent, pour différentes raisons, avoir du rolling dans différents pays, et elles peut-être s'exonérer de payer l'impôt, et pas rien qu'en Belgique, mais prenons des petites. Ben, en Belgique, moi je remarque que depuis la crise, puis 2008, si on prend un entrepreneur qui commence, ou qui ne commence pas d'ailleurs, et qui veut mettre de l'argent dans sa société, une fois qu'il a un peu de rémunération et qu'il a des bénéfices, ben, il a déjà 34% d'impôts des sociétés, et derrière vient s'ajouter un précompte qui est passé, et pourtant qui était spécifique au PME, de 15 à 25. Donc c'est une augmentation de 66%, c'est pas marginal. Et en plus, au total, ça fait plus de 50% qui est prélevé. Donc je ne vois pas, si on doit encore ajouter sur les actions que cet individu détient, une imposition supplémentaire, ça commence à faire beaucoup.
Oui, mais on a beaucoup parlé de cela, c'est Mark Cook qui a vendu Omega Pharma pour un beau paquet de milliards, on va dire. Vous trouvez ça logique qu'il n'ait pas du tout été imposé sur une somme gigantesque ?
Mais de toute façon, je vais dire logique, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai mon opinion sur le sujet, je vais vous la donner, mais c'est très difficile de dire si c'est logique. Parce que si on doit mettre tout ce qui est logique ou qui n'est pas logique, il faut alors ajouter tous les salaires très importants de certains sportifs, de certaines personnes du show business, qui en plus ne sont pas imposés puisqu'ils vivent même parfois dans le pays, mais sont dans des paradis fiscaux par ailleurs, et les montants ne choquent personne, même parfois pour le transfert, même parfois pour la rémunération. Et même ces gens...
Oui, mais
parfois...
c'est peut-être pas un bon exemple, malgré
mais c'est
tout.
Pour... C'est... Je ne vous le fais pas dire, mais si on met tout sur la table, faut tout mettre sur la table. Et surtout, une seconde chose qui me paraît essentielle, je ne connais pas le cas de Mark Cook en particulier, parce que je n'ai pas regardé sa société, mais il faut voir tout ce que cette société a payé comme impôt, tout ce qu'elle a créé comme emploi pérenne, et combien... sur l'ensemble des activités de cette société, on a déjà prélevé, plus sur les précomptes mobiliers qui ont été pris. Maintenant, si on regarde cette plus-value non taxée, indépendamment de tout le reste, c'est de toute façon pour la population, vu le montant, incroyable que ça puisse ne pas être taxé. Mais je pense qu'il faut prendre l'ensemble des dimensions, plus une chose. Si effectivement, je pense, dans le cas de Mark Cook, il réutilise cet argent dans la société qui vient d'être achetée pour recréer des emplois, je pense qu'il est aussi bien affecté que s'il était affecté à un autre endroit.
Ça, on le verra. Paul Jorion, justement, on voit en Belgique, on a eu beaucoup de mauvaises humeurs ces derniers temps, des grèves, des manifestations, etc., face au plan du nouveau gouvernement. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais quand on voit la crise que l'Europe traverse, est-ce qu'un modèle social comme le nôtre, mais il y a d'autres pays où c'est mis en question, c'est quelque chose qu'on doit conserver à tout prix ou bien on doit l'assouplir pour rendre possible une nouvelle croissance ?
Non, il faut surtout poser le problème de l'emploi précisément à plat. Ça fait des siècles que nous essayons de remplacer l'homme et la femme au travail par des machines et nous arrivons à le faire d'une manière, je dirais, de plus en plus satisfaisante. Mais il ne faut pas que ce soit simplement une situation où du coup les gains faits par la machine soient des gains qui ne soient absolument pas partagés dans l'ensemble de la société, qui va uniquement aux actionnaires de l'entreprise et aux dirigeants sous forme de stock options, d'actions données, de multiplication du niveau du salaire. Moi, je m'oppose un peu quand on dit oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire ceci, cela par rapport aux entreprises, que l'exemple qui soit le contre-exemple qui est toujours donné, c'est de dire oui, mais dans le cas des toutes petites entreprises qui sont à la limite de la rentabilité. Mais ce n'est pas d'elles qu'on parle quand on parle des entreprises. Il ne faut pas toujours dire oui, mais c'est impossible parce que je connais un monsieur qui tire le diable par la queue avec son entreprise, avec 3 employés. Non, on parle des grosses entreprises. Il faudrait faire systématiquement la différence. Et quand on dit que les grosses entreprises créent des emplois, on sait que c'est de moins en moins le cas. Mais les nouvelles entreprises, en général, elles sont extrêmement efficaces. Elles font des milliards avec 50 employés. On ne connaît pas le mécanisme qui fait que des déductions faites aux grosses entreprises vont créer automatiquement des emplois. On n'est plus dans un monde où on crée des entreprises avec 10 000 personnes qu'on va employer. Les entreprises qui marchent maintenant, il faut bien le dire, c'est de moins en moins avec du travail humain. Et la tendance va encore aller dans ces directions-là. Il faut qu'on repose le problème dans ce cadre. Là, il ne suffit pas que quelqu'un soit remplacé par un logiciel ou par un bot dans une entreprise et qu'on lui dise « voilà, vous avez la tâche maintenant de retrouver du travail ». Non, c'est un problème social, c'est un problème sociétal d'ensemble. Il faut qu'on discute ça et qu'on pose le problème dans ces termes-là. Et pas toujours renvoyer la responsabilité sous forme de culpabilité, soit à l'employé qui a été remplacé par une machine, soit, comme on le fait beaucoup, aux petites et moyennes entreprises, créer des emplois. Mais comment créer des emplois ? On ne sait plus, on ne connaît plus la recette pour le faire. On sait comment créer de la richesse, on sait comment distribuer cette richesse par ceux qui ont avancé du capital, mais on ne sait plus comment créer des emplois.
Alors, Paul Jorion, vous ne le voyez pas, mais je vois Roland Gillet à côté de moi qui est un peu nerveux sur son siège. Alors, Roland Gillet, je vous écoute.
Je peux au moins admettre que de comparer les grandes sociétés aux petites n'est certainement pas une bonne idée, surtout quand on voit la manière dont elles peuvent gérer de façon intelligente, la manière dont elles gèrent, je vais dire, la partie impôts. Mais si on regarde quand même aujourd'hui, et tous les décideurs politiques sont d'accord, que c'est par quand même les PME qu'on a une chance un jour d'avoir un vrai effet au niveau de l'emploi ou du moral des troupes, je dis qu'aujourd'hui, la taxation est telle, sur la rémunération liée aux risques qui sont légitimes, et vu le nombre de faillites d'ailleurs, qui montrent d'ailleurs que cette rentabilité est loin d'être assurée, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire attention et prendre le tout dans sa globalité. Et bien entendu qu'il faut être nuancé, et bien entendu, comme l'a dit M. Jorion, il faut faire attention à ne pas être ni stigmatisant dans un cas, ni dans l'autre.
Alors une question de prospective économique, si on se place un petit peu à un horizon au-delà de la crise actuelle qui a démarré depuis 2008. Est-ce qu'il faudra s'habituer à vivre dans un monde finalement de plus en plus à deux vitesses, avec une Europe avec une croissance structurellement assez faible, assez basse, et des économies émergentes, elles, avec des croissances beaucoup plus importantes. Est-ce que cette dualisation, finalement, de l'économie mondiale va s'amplifier encore dans les années ? Votre avis, Paul Jorion ?
Il y a un cas intéressant en ce moment, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a une représentation d'elle-même qui, on sait, qui est extrêmement bonne, à partir en fait d'une analyse qui date de quelques années par rapport à ces situations. Et l'Allemagne sait qu'elle a une structure très vieillissante de la population, elle sait qu'il faudra faire venir des immigrés, etc. Et elle fait venir des immigrés dans un contexte où il y a un mouvement xénophobe qui est en train de se développer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence, il y a un gap, il y a un fossé entre de la représentation par la population elle-même de quels sont les problèmes, et c'est très facile parce que, je veux dire, ça ne demande pas des modèles très compliqués, de se dire c'est sûrement mon voisin parce que je vois qu'il a beaucoup d'enfants et qu'il reçoit des allocations familiales et peut-être que c'est la raison pour laquelle tout va si mal autour de nous. On est dans des situations où, justement, ce qu'il faudrait faire sur le plan économique et ce qui est tolérable par la population dans une population qui, où, bon, il faut faut bien dire, c'est un problème, mais c'est pas seulement en Europe, c'est aussi le cas aux États-Unis, disparition de la classe moyenne. On a effectivement une polarisation avec un tout petit groupe de gens qui sont de plus en plus riches, qui gagnent 90% de toute la richesse créée sur une année. Une population pauvre qui, elle, croit parce qu'il y a un certain nombre de gens de la classe moyenne qui tombent dedans, et une classe moyenne qui disparaît entièrement parce que c'est précisément cette classe moyenne qui est remplacée par du travail essentiellement par du logiciel, okay, par l'invention du micro-ordinateur et qui remplace l'ensemble de ces tâches-là.
Roland Gillet, d'où viendront demain les relais de croissance? C'est de la transition énergétique, la transition numérique, la révolution numérique, ce sont toutes ces révolutions en marche qui vont demain être les relais de croissance pour l'économie mondiale?
C'est certainement une partie, mais je pense, et je le répète, qu'au niveau des entreprises petites comme moyennes qui aujourd'hui essayent de créer de la richesse, aussi bien artisanale qu'intellectuelle, aujourd'hui elles ne sont pas dans un jeu qui est équitable. Si on regarde l'ensemble d'ailleurs du problème, et on voit que ce n'est pas en leur offrant des conditions de financement encore plus basses que ces projets d'investissement aboutiront. Et donc aujourd'hui, il faut être beaucoup plus sélectif et donner du moral à des gens qui ont de l'ambition, des gens qui ont l'audace et qui sont prêts à les mettre à disposition de la société.
Alors nous arrivons déjà malheureusement au bout, mais encore une question que je vais poser à tous les deux, et je vous demande à chacun une réponse extrêmement courte. Le panorama économique est un peu compliqué, on l'a vu, n'incite pas à l'optimisme, mais quand même, je vais commencer par vous, Roland Gillet. Quel est l'élément, la personne qui pourrait vous rendre optimiste que vous attendez pour 2015?
Ah ben clairement, au niveau de l'Europe, au moins Jean-Claude Juncker. Même si on a dit tout à l'heure que c'était un petit pas, il est dans le bon sens. Je pense que c'est quelqu'un qui a du courage. Maintenant, il faut voir s'il va être capable de mobiliser les énergies autour de lui, des États importants et des grands États, à savoir non seulement l'Allemagne, mais la France, qui me fait beaucoup plus peur, étant donné ses problèmes internes.
Même question, Paul Jorion, et très brièvement, une chose qui vous rend quand même optimiste pour l'année prochaine?
Oui, c'est la possibilité du parti Syriza en Grèce, M. Tsipras, de gagner les élections et de donner un coup de pied dans la fourmilière, de remettre en question cette idée d'un TINA, de There is no alternative, qui a une pensée unique. C'est tout ça, tout ce qu'on nous propose, en fait, est lié à un vieux modèle économique qui a été infirmé dans les faits et qu'on nous ramène à tout moment. Il y a des alternatives, il faut passer aux alternatives, il faut faire passer l'Europe en deuxième vitesse, mais ce n'est pas avec les vieilles recettes qu'on utilise au niveau européen depuis 50 ans.
Mais je vous remercie beaucoup, Paul Jorion. Merci également à Roland Gillet. Alors, juste encore un petit mot à propos de la Libre Entreprise. Vous avez un dossier spécial, Vincent, ce week-end.
Oui, dossier spécial avec un dossier de finance-fiction où on s'est attaché à décrire, à imaginer un certain nombre de scénarios pour que 5 grandes entreprises belges. Un dossier donc à lire, effectivement, ce samedi dans la Libre.
Bien, merci Vincent et merci à tous les trois. Et donc, je pense que les scénarios du futur, on continuera à en discuter ensemble lors de prochaines émissions. Merci à vous et bon début d'année.